Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le berceau de notre Seigneur Jésus-Christ est entouré par plusieurs martyrs et par l'évangéliste Saint Jean. Plusieurs martyrs, Saint Étienne d'abord, le grand martyr Saint Étienne, le premier de tous, martyr pour avoir témoigné de la gloire de notre Seigneur, de la gloire du petit enfant qui est dans la crèche. Les saints innocents, qui sont si nombreux, notre Seigneur n'a pas voulu, enfin la Providence n'a pas voulu épargner le sang de ses enfants. La Providence aurait très bien pu faire en sorte que ces petits-enfants ne soient pas mis à mort. Et puis, vous avez Saint Jean, le grand apôtre Saint Jean, qui a si bien parlé de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais au milieu de nombreuses épreuves lui aussi. Vous avez également Saint Thomas Becket, qui a été réduit récemment au rang de mémoire, mais qui était une fête. Saint Thomas Becket, martyr de la liberté de l'Église. Pourquoi tout cela? Pourquoi la Providence a-t-elle permis que Saint Étienne mourut le 26 décembre, Saint Jean le 27, pourquoi a-t-elle permis les saints innocents? Pourquoi l'Église a-t-elle voulu nous rappeler cela et en faire la fête, en célébrer la fête chaque année, alors que nous sommes dans la joie de Noël? Notre Seigneur dit à Saint Jean, « Toi, suis-moi. » Il venait d'annoncer à Saint Pierre, son martyr, et lui avait dit, après lui avoir confié l'Église, il lui avait dit qu'il le suivrait dans le martyr, et Saint Pierre, tout heureux d'imiter son maître dans la Passion, se permet de lui dire, « Et lui, Saint Jean ?» Notre Seigneur répond, « Cela, ce n'est pas tes affaires, mais toi, suis-moi. » Saint Jean a très bien entendu cela, puisqu'il a, il le raconte dans l'Évangile, il le rapporte, il était témoin, et il est frappé par cette remarque de notre Seigneur, qui revient 8 fois dans l'Évangile. 8 fois, notre Seigneur dit, « Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Celui qui veut être mon disciple, qu'il vienne après moi et qu'il me suive. La plupart du temps, notre Seigneur précise qu'il me suive en portant sa croix. Il est important, au moment où nous méditons de nouveau avec une fraîcheur renouvelée, la venue de notre Seigneur sur terre et donc dans nos âmes, où nous célébrons de nouveau notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour nous un nouveau départ. Il faut que chaque année soit un nouveau départ. Et la crise actuelle, les difficultés dans lesquelles nous sommes, l'inquiétude dans laquelle, à laquelle nous ne pouvons pas échapper, tout cela doit nous inciter à un nouveau départ. Nous devons faire désormais le mieux possible ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, peut-être en n'y pensant pas assez, en étant peut-être dans la routine, que sais-je encore. Donc nous devons nous mettre à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur est comme le chef d'une armée qui prend la tête et qui veut que tout le monde le suive. Nous le verrons très clairement le jour de l'Ascension. Notre Seigneur entre au ciel, suivi de toute la foule des saints de l'Ancien Testament qui attendaient que l'entrée de notre Seigneur pour pouvoir pénétrer à sa suite dans le ciel. Il y a le très beau psaume 23 qui les anges demandent en haut du ciel. Ils demandent à la foule qui se présente à la porte, mais qui veut entrer ? Ouvre les portes, qu'il entre le roi de gloire. Et les anges insistent, et là, de manière à obliger la foule à bien proclamer la divinité et la royauté de notre Seigneur. Et la foule répond, mais si, c'est le roi de gloire. Il a vaincu, lui, il est le Seigneur des armées. Alors, ouvrez les portes. À ce moment-là, les anges ouvrent les portes et notre Seigneur entre au ciel, suivi de cette foule. Ce psaume, nous l'avons eu durant la liturgie de Noël. Je crois que c'était au matin ou peut-être au vêpres, je ne me rappelle plus. Nous l'avons eu, ce psaume, parce que ce triomphe de notre Seigneur commence maintenant et c'est maintenant que nous nous mettons à sa suite. Si nous voulons arriver avec lui, il faut que nous partions avec lui. Certes, il y a tous ceux qui rejoignent notre Seigneur en chemin, il y a tous les ouvriers de la dernière heure, mais cela n'est pas une exception. C'est-à-dire que ceux qui s'en rendent compte tard se rendent compte qu'il est grand temps de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'en sont pas dispensés. Comment suit-on notre Seigneur ? Par la pensée et par l'action. Par la pensée, par la contemplation. Nous contemplons ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous contemplons sa vie mortelle pour mieux le suivre dans sa divinité. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ est une vie divine incarnée. Faisons bien attention de ne pas voir seulement l'extérieur de la vie de Jésus. Cet extérieur est fait pour nous aider, pour nous encourager, pour nous faciliter la suite de notre Seigneur. Mais le but est de suivre notre Seigneur dans sa divinité, d'entrer au ciel avec lui. D'ailleurs, en venant sur terre et dans nos âmes, il nous communique sa vie divine, évidemment. Il est important de contempler, de réfléchir, d'avoir sous les yeux notre Seigneur, ou de nous rappeler que notre Seigneur nous regarde, c'est la même chose. Lorsque maman Marguerite devait, c'est la mère de Saint Jean Bosco, n'est-ce pas? Elle était illettrée. Ce ne l'a pas empêché de faire de son fils un saint, de le renseigner à tous le catéchisme, la présence de Dieu. Et justement, c'est pour cela que je parle d'elle. Maman Marguerite, quoique ignorante, avait une très grande connaissance de Dieu. Lorsqu'elle devait s'absenter, et elle le devait parce qu'étant veuve, il fallait qu'elle aille au marché, soit pour vendre, soit pour acheter. Elle disait à ses enfants qu'elle laissait à la maison, « Pendant mon absence, je ne vous verrai pas, mais Dieu, lui, vous verra. » Et cela suffisait pour que les enfants de maman Marguerite, Saint Jean Bosco et ses frères, vive sous le regard de Dieu, vive vertueusement, pense au bon Dieu. Il faut que nous pensions au bon Dieu tout le temps. Notre Seigneur est le but. Il n'y a qu'un seul ciel, il n'y a qu'un seul but. Il n'y a qu'une seule manière de vivre, c'est de vivre de la grâce. Il n'y a qu'une seule manière de suivre notre Seigneur, c'est de l'imiter dans ses vertus. Cela est facile parce que notre Seigneur a tout connu de nous. Il a connu nos joies, nos peines, il a connu notre travail, et il a connu nos croix, nos épreuves, nos difficultés. Bien sûr, en le suivant dans tout cela, c'est pour, si nous le suivons, c'est pour entrer au ciel. Et si sur terre, notre grande préoccupation, vous voyez, il faut faire très attention que nous ne sommes pas sur terre uniquement pour un au-delà qui sera extraordinaire, comme s'il fallait attendre. Nous sommes déjà à la suite de notre Seigneur, et Saint Grégoire le Grand dit que le suivre, c'est l'imiter. Comment imiterons-nous notre Seigneur Jésus-Christ? Celui, il y a dans la contemplation de Jésus-Christ, dans la contemplation de la divinité de Jésus-Christ, il faut arriver à imiter la contemplation de Dieu dans l'âme de Jésus. Jésus était en présence de Dieu, son âme était enthousiasmée, elle était illuminée par la présence de Dieu. Notre âme doit être illuminée dans ce pauvre monde noir. Il y a une lumière et cette lumière est extraordinairement vive. Même si beaucoup refusent de la voir et s'en détournent, il faut qu'ils s'en détournent pour refuser de la voir. S'ils regardaient, ils la verraient. Même dans ce pauvre monde, il y a cette lumière extraordinaire de notre Seigneur Jésus-Christ qui est pas seulement devant nous, qui est en nous. Il est normal que lorsqu'on aime, on pense à celui qu'on aime. Vous voyez des parents, des grands-parents, quand ils sont fiers de leur fils, un fils qui est à la guerre, par exemple les Christéros, les mamans qui savaient que leur fils était à la guerre, alors elles se disaient, toute seule chez elle, tout de suite il doit être en train de se battre contre les fédéraux, tout de suite il doit être en train d'organiser la fête Dieu, parce que les Christéros faisaient des processions splendides pour la fête Dieu, même quand ils n'avaient pas le Saint-Sacrement, on honorait notre Seigneur Jésus-Christ le Roi. Il est en train de préparer la fête Dieu, il est en train de suivre la fête Dieu, pourvu que les fédéraux ne les dérangent pas. Mais c'est pas grave, s'il mourait, il mourrait un martyr. Et lorsque son fils revenait, ils sont pas tous revenus, hein, loin de là, lorsque son fils revenait, alors il lui raconte ce qu'il a fait, elle était déjà avec lui, elle le savait déjà. Pensez à des parents de prêtres qui se disent, mon fils est en train de faire ceci, de faire du catéchisme, de prêcher, de convertir des âmes. Il ramène à Dieu des âmes. On y pense, et il y a une connaturalité. Il n'y a que celui qui aime qui comprend bien. Les autres ne comprennent à la surface. Il faut donc que nous aimions notre Seigneur Jésus-Christ. Notre contemplation de Jésus-Christ est une contemplation d'amour. C'est la contemplation d'un ami. C'est la contemplation de celui avec qui nous vivons. C'est la contemplation de celui qui est notre vie, qui nous a donné la vie, mais une fois qu'il nous l'a donnée, elle est à nous. Sa vie est la nôtre. C'est un don extraordinaire qu'il a voulu nous faire entrer dans son amitié. Mais à partir du moment où il nous fait ce don, nous sommes ses amis. Alors un ami pense à son ami. Il vit avec son ami. Et comme la vie de notre Seigneur est essentiellement spirituelle et divine, alors nous vivons spirituellement et divinement. En attendant, nous suivons notre Seigneur dans l'action. Enfin, en attendant, c'est pas le bon terme. Simultanément, plutôt. Subalternement. Nous suivons notre Seigneur dans l'action. C'est-à-dire que la présence de notre Seigneur va éclairer ce que nous faisons. Et je vous ai pris l'exemple de cette maman qui pense à son fils Christéro, qui se bat pour la gloire du Christ roi. Viva Cristo Rey. Le fils en même temps pense à sa mère. Et il veut que sa mère puisse être fière de lui. Il la verra, il la reverra, il ne la reverra pas, même s'il ne la voit pas ici-bas, il la reverra au ciel. Il faut que quand il rentrera de la croisade, sa mère soit fière de lui. Il faut qu'il puisse lui dire, « Maman, je n'ai pas manqué mon chapelet. Maman, je n'ai pas manqué mes prières. Maman, j'ai toujours eu devant les yeux notre Seigneur pour la gloire de qui je combattais. Maman, le Christ roi m'a toujours guidé. Maman, j'ai entraîné mes amis pour qu'ils aiment le Christ roi comme vous m'avez enseigné à l'aimer. Maman, vous pouvez être fière de votre fils. Tout ce que vous attendiez de lui, il l'a fait. Et pour être fière de vous et que vous soyez fière de lui, il a essayé de le faire encore mieux, encore plus que ce que vous lui aviez enseigné. Il est important d'enseigner cela à nos jeunes. Nos jeunes, on ne se rend pas compte, mais vivent, surtout les jeunes traditionnalistes, facilement dans l'omission. Ils ne cherchent pas à s'écarter de Dieu, mais ils ne cherchent pas à le suivre. Ils ne cherchent pas à lui déplaire, mais ils ne cherchent pas à lui plaire. Combien d'hommes sont comme cela? Ils évitent les gros péchés. On ne pourra pas les accuser, ni de meurtre, ni même de faute contre peut-être d'adultère, par exemple. Et pourtant, suivent-ils notre Seigneur Jésus-Christ? Sont-ils préoccupés de lui appartenir tout entier? Le monde nous chante une chanson, il nous fait des films, il nous montre tout ce que nous perdons. Mais nous ne perdons rien parce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dit « Celui qui a Jésus a tout ». Et si nous avons tout, ce que nous perdons n'a pas d'importance, n'a pas d'intérêt, et normalement, cela ne nous gêne pas de l'avoir perdu. Bien sûr, il y a peut-être une souffrance, mais je vous ai pris l'exemple de Christéros, prenons celui de Cadounal, qui était fiancé. Par amour de Dieu, il dit à sa fiancée, je m'en vais pour me battre pour le Christ roi, contre la révolution qui est l'anti-Dieu. Sa fiancée, bien sûr, non seulement l'a laissé partir, mais elle l'a encouragé. Et Cadounal a fait porter une loi, un décret si vous voulez, interdisant à tout jeune célibataire de se marier tant que la victoire n'était pas acquise. Et cela était sous peine de mort. Je ne sais pas si Luth a appliqué son décret, mais on a là des hommes qui savent quel est le prix des choses. À un moment de faiblesse, Cadounal a demandé à la famille de sa fiancée que celle-ci vienne la voir, la rencontrer, en tout bien, tout honneur, bien sûr. Il avait peut-être besoin d'un peu d'affection, d'un peu d'amitié, que sais-je. Et la famille a répondu, « Mais que demandez-vous là? Vous n'avez pas votre tête. » La fiancée est restée chez elle. Cadounal a continué sa lutte, intelligemment. Rares sont ceux qui ont lutté avec tant d'intelligence contre les sans-dieux. Il finit sur l'échafaud, il demanda à être guillotiné le premier pour que ses compagnons de lutte soient bien certains qu'il n'avait pas cherché à s'échapper parce que Napoléon lui avait fait des offres extraordinaires. La fiancée entra au couvent chez les Ursulines à Château-Gontier. On voit encore, c'est devenu l'école de musique maintenant, on voit encore l'endroit où des prêtres étaient cachés chez les Ursulines. Il est important d'enseigner à nos jeunes qu'il ne suffit pas de ne pas faire le mal, qu'il ne suffit pas de ne pas pécher, qu'il faut suivre notre Seigneur intégralement. Et vous, les jeunes qui m'écoutez, faites bien attention à ce que je vous dis. Vous êtes-vous totalement donné à Dieu? Notre vie est une vie qui doit être pleine de Dieu. Il faut chercher Dieu partout. Et dans la crise actuelle, il ne faut pas regretter ce que nous perdons. Au contraire, plus la crise avance, et plus nous voyons avec clarté que toutes ces choses que nous perdons étaient des choses qui n'avaient pas d'intérêt. Le démon, lui, nous fait du cinéma. C'est comme ce film, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Les premiers films qui furent projetés sur un écran. On présente un train qui avance à toute allure, c'est-à-dire à l'époque à 50 à l'heure. La caméra est sur les rails. Le train arrive et les spectateurs ont l'impression que le train va les écraser. Ils crient, ils hurlent, « Oh, au secours !» C'était du cinéma. Jamais un train sur un écran n'a écrasé personne. Jamais un gâteau sur un écran n'a nourri personne. Et jamais une fille sur un écran n'a donné de la joie à un garçon. Le démon veut vous faire croire que vous perdez beaucoup. Et notamment, il veut vous faire croire qu'en perdant votre liberté, vous serez malheureux. Alors qu'en réalité, vous ne perdrez pas votre liberté. Nous ne perdons pas notre liberté. Notre liberté est mise à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le suivons et c'est là qu'il nous libère. Il nous libère pas seulement du péché, il nous libère du monde, il nous libère de lui-même, de nous-mêmes. Lorsque nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, enfin nous sommes détachés de toutes les choses d'ici-bas. Alors il est temps que je termine. Mais bien, chers frères, apprenons à nos jeunes à se conduire par soi-même, par eux-mêmes. Il vous reste encore 8 jours de vacances, mes chers amis. C'est 8 jours très précieux parce que les vacances sont la période la plus importante de l'année scolaire. Certes, en classe, vous apprenez beaucoup de belles choses, mais la cloche sonne et vous n'avez qu'à obéir. Les professeurs, les surveillants vous disent ce qu'il faut faire, vous n'avez qu'à suivre. C'est pendant les vacances que vous vous décidez par vous-même. C'est à vous de vous sonner la cloche. C'est à vous de vous décider. C'est à vous de savoir ce que Dieu attend de vous et de le faire. Vos parents ne peuvent pas tout le temps être derrière vous. Et s'ils le pouvaient, ça ne serait pas une bonne chose. Parce que vous devez être des hommes. Et des hommes sont ceux qui, justement, sont libres, c'est-à-dire capables, par eux-mêmes, sans qu'on les contraigne, de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils en ont compris l'importance. Voilà ce que nous devons demander à Saint Jean, à Saint Étienne, au Saint Innocent, et surtout à la Sainte Vierge, qui n'a été la mère de Dieu que parce que le jour de l'Annonciation, elle s'est mise totalement à la suite d'une Seigneur, elle s'y était mise d'ailleurs beaucoup plus tôt. Je dis une bêtise, elle s'est mise à la suite du Seigneur dès le début, dès le tout début. Mais le jour de l'Annonciation, elle déclare « Je suis une servante, je fais ce que mon maître dit. » Alors, nous avons eu ce psaume, le psaume 44, « La reine est à votre droite, ô mon Dieu. » La reine, c'est la Sainte Vierge, c'est nous tous. Nous sommes à la droite du Christ roi, qui est en train de conquérir sa royauté et qui, ici-bas, monte au ciel au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.